This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Salut les fous du volant, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission consacrée à la Formule 1. Je suis Gilles Della Posta et avec Stéphane Vrignot, on va revenir notamment sur ce Grand Prix d'Azerbaïdjan dans les rues de Bakou. Salut Stéphane, en forme ?
Oui, Gilles, et toi ?
Écoute, ça va impeccable, on a vécu un Grand Prix complètement fou et justement on va en parler avec au sommaire Red Bull qui ne sait plus si on doit rire ou pleurer hein, du côté de Christian Horner, les hommes de la firme autrichienne qui avaient tout parfaitement fait dimanche et se diriger vers un doublé avant que Verstappen ne soit victime d'une crevaison et que la victoire ne revienne à Sergio Pérez. Rappelez-vous, après Monaco, on s'était demandé où était passée la bonne étoile de Mercedes. Eh bien, on peut vous dire qu'elle n'est pas à Bakou non plus. Pour Toto Wolff, ces semaines sont les plus difficiles depuis qu'il dirige la firme allemande. Ça sera notre deuxième sujet. Et puis, on évoquera également Pierre Gasly, troisième de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Le Français qui a su rester loin des ennuis durant l'essentiel de la course avant de remporter un ultime duel face à Charles Leclerc pour monter sur le troisième podium de sa carrière. Et puis, alors une petite info, on vous fait gagner aujourd'hui un livre sur l'histoire de la Formule 1 en 50 portraits. Et pour tenter de gagner ce livre, allez sur votre compte Twitter et partagez le post qui fait la promo du podcast Les Fous du Volant qui débute maintenant. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc ce numéro des Fous du Volant avec Red Bull. Rire ou pleurer après Bakou, c'est toute la question hein, pour Christian Horner et son équipe. Alors, il y avait eu déjà ce samedi les qualifications plutôt moyennement négociées. Hein, Max Verstappen 3e sur la grille, Sergio Pérez seulement 7e. Et puis dimanche était un autre jour, un très bon départ de Pérez qui va vite remonter jusqu'à la 3e place. Derrière Hamilton et Verstappen, et puis il y a eu cet overcut magnifique de l'équipe Red Bull qui a permis aux Néerlandais et aux Mexicains de prendre l'avantage sur le pilote Mercedes. Course sous contrôle pour les hommes de Christian Horner. Et puis il y a cette crevaison qui envoie Max Verstappen dans le mur. Le drapeau rouge, le deuxième départ, finalement la victoire de Sergio Pérez. Pour finir sur le côté factuel, Stéphane. Max Verstappen reste malgré tout leader du championnat avec un petit peu de réussite, toujours 4 points d'avance sur Lewis Hamilton qui a terminé 15e. Mais en revanche, au niveau du classement des constructeurs, Red Bull repart bénéficiaire de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan avec désormais 26 points d'avance sur Mercedes. Stéphane, j'ai quand même envie de dire que sur l'ensemble de ce week-end, on a eu le droit à une démonstration de force de Red Bull et de Max Verstappen, hein, qui vraiment contrôlait ce Grand Prix d'Azerbaïdjan avant cette crevaison.
Ce qui est incroyable, c'est que ça fait 2 courses de suite sur des circuits urbains d'une configuration complètement différente. Et Verstappen a dit, sur les circuits urbains, on est les meilleurs. On a une voiture meilleure que la Mercedes. Alors après, on verra ce qui se passe à Singapour. Mais effectivement, tout paraissait sous contrôle, un point absolument incroyable, même l'overcut hein, qui est réalisé par Pérez, qui s'arrête 4 secondes 3, donc c'est un arrêt qui est long, mais il ressort quand même devant Hamilton, et juste après, un overcut aussi de Verstappen. Donc, ils ont fait la course en attente, et puis là, ils sont passés à exécution du plan au premier pit stop de Lewis Hamilton. Alors, j'en viens juste à un petit point, c'est que Pierre Gasly avait même participé au brief chez Red Bull en disant t'es placé haut sur la grille, il faut voir à ne pas gêner spécialement Verstappen qui était juste à côté de lui sur la grille et puis éventuellement aussi Perez. Effectivement, j'ai trouvé que bon, il avait laissé passer sans résister Perez, ce qui fait qu'ils sont installés tout de suite en troisième et quatrième position, alors que Hamilton venait de passer en tête. Et là, quand même, le point important, c'est qu'en termes de stratégie, ils jouaient à 2-1. Et là, on se disait que c'était quand même bien parti.
Oui, exactement. C'est ce qui va peut-être faire la différence hein, cette saison par rapport à toutes les saisons précédentes. Désormais, d'ailleurs, chez Red Bull, on l'a dit plutôt haut et fort, on a désormais un deuxième pilote, ce qui était plutôt une vacherie d'ailleurs à l'encontre d'Alexander Albon et de Pierre Gasly. Mais Stéphane, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sergio Perez présente quand même un bilan après ce Grand Prix d'Azerbaïdjan qui est au-dessus de la moyenne de ses deux prédécesseurs dans le deuxième baquet de chez Red Bull.
Oui, Red Bull tient ce discours suivant. Nous avons enfin remplacé Daniel Ricciardo depuis son départ en 2018. Ricciardo, au bout de 6 courses, avait 72 points et 2 victoires quand même en poche. Et puis, il y a eu le creux, Gasly et Albon. Ensuite, avec 32 points pour le Français, 40 points, ce qui était quand même pas mal pour l'Anglais, le Thaïlandais. Et puis là, Perez, eh ben, il rentre 69 points. Et surtout, il a dit, après la première journée, je crois que c'était après la première journée, il dit « Cette voiture, je commence à comprendre et à savoir mieux la piloter et à m'en sortir beaucoup mieux. » On l'a vu, effectivement. Donc, ça fait 25 points au championnat constructeur, c'est très très fort. Et il n'y a pas de doute là-dessus. Verstappen va pouvoir compter sur un allié important, alors que chez Mercedes, Bottas fait défaut.
Exactement. Bon, c'est quand même une excellente opération aussi pour Sergio Perez, hein, qui remonte au classement des constructeurs, parce qu'il y a deux championnats en un. Il y a le duel entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, et là on peut dire match nul. Et puis il y a la bagarre pour tous les autres pilotes, et dans ce domaine, Sergio Perez a quand même tiré un énorme bénéfice des déboires pneumatiques de son coéquipier. Et Sergio Perez, désormais, peut viser la troisième place au championnat.
Il est troisième. Alors, on en parlait dans un podcast précédent des Fous du Volant. L'importance de Perez, c'est de prendre aussi des points à Hamilton. Mais si tu regardes bien la configuration qu'on avait avant le crash de Verstappen, Verstappen premier, Perez deuxième en couverture. Et troisième Hamilton, c'est-à-dire que Perez prenait 3 points à Hamilton, mine de rien. Ouais. Donc, il est là aussi pour ça. Et je pense que maintenant, il n'y a plus tellement de suspense sur sa reconduction chez Red Bull en 2022. Il a été encensé véritablement par Christian Horner, qui ne prend pas trop souvent position là-dessus, mais il a envie de le garder. Donc, Perez a sans doute gagné sa place chez Red Bull l'an prochain à Bakou.
Clairement. Et puis pour revenir sur ce que tu disais, malheureusement, on ne saura pas ce que ça donnera à Singapour parce que le Grand Prix de Singapour a été annulé. C'est peut-être finalement une mauvaise nouvelle d'ailleurs pour Red Bull parce que c'était un terrain qui pouvait très très bien convenir à cette RB16B qui était vraiment au-dessus du lot encore dimanche dernier.
Oui, tu me rappelles effectivement que le Grand Prix de Singapour a été
annulé. Il y a eu tellement d'infos qu'il faut être concentré. Hein.
Oui, mais disons que la Red Bull était très très bien dans le secteur 2, ils ont vraiment, c'est-à-dire tout autour de la vieille ville, et c'est là-dessus en fait que Perez se détachait d'Hamilton, devant Hamilton, et qu'il l'empêchait de rentrer dans sa zone DRS, et tout était sous contrôle effectivement jusqu'à cet accident. Verstappen était en tête, il était à l'aise. Perez était en couverture. Horner a dit qu'il a fait un travail fantastique pour résister aux attaques qui ont été nombreuses d'Hamilton.
Ouais.
Et le plan se déroulait sans accroc jusqu'au 46e tour.
C'est ça. Et donc cette crevaison qui a réduit à néant les espoirs de victoire de Max Verstappen, on va en parler évidemment de cette crevaison. Roue arrière gauche qui explose en ligne droite. On croit revoir exactement la crevaison qui avait eu lieu un petit peu plus tôt dans le Grand Prix pour Lance Stroll. Avec cette question, est-ce que c'est une défaillance des pneumatiques à cause des vitesses élevées et sur une durée très très longue. On sait que la charge sur un pneu augmente de manière exponentielle plus on reste longtemps à très haute vitesse. Pirelli a très vite coupé en disant que les deux avaient dû passer sur des débris. D'ailleurs, Max Verstappen avait pris les devants en disant de toute façon, ils vont parler de débris. C'est un petit peu compliqué de savoir, mais il faut absolument savoir ce qui s'est passé parce qu'il en va de la sécurité des pilotes.
Oui, il faut être très prudent effectivement sur les causes, sur l'implication, je dirais, du Pirelli en tant que produit. J'en viens juste au fait que Verstappen a quand même eu de la chance parce qu'il tape pas très loin de l'entrée des stands. Alors, il tape du bon côté à droite, mais s'il tape à gauche, ça peut être dramatique parce qu'il y a l'entrée des stands fait bouclier. Bon. Ouais. Pirelli avait dit que ce pneu dur pouvait durer 36-40 tours à peu près. Malheureusement, Stroll a son incident après 31 tours. Et puis, Verstappen ne fait que 34 tours avant son grave problème. Et 3 tours avant, Norris avait signalé aussi un problème de vibration. Alors ça, c'était le pneu avant droit, ce n'était pas le pneu arrière gauche qui a éclaté sur l'Aston Martin et la Red Bull. Mais Norris avait fait 36 tours aussi, donc c'était vraiment la limite et c'était un petit peu problématique. Et on aurait peut-être dû se méfier un petit peu. En tous les cas, malheureusement, je dirais, Verstappen était obligé de pousser le rythme parce que derrière, Hamilton menaçait Perez et Perez était obligé de réagir. Donc, Verstappen menait quand même un grand train là-dessus. Il n'avait pas tellement le choix. On verra réellement les causes profondes de cette surchauffe. Mais Hamilton avait parlé dès le samedi soir quand même de ce problème chez Pirelli, pointait vraiment nommément Pirelli sur cette question de la surchauffe du pneu immédiatement, dès le premier tour. Et d'ailleurs, eux, ça leur posait problème parce qu'ils étaient obligés de faire 2 tours de préparation avant de faire un chrono. Donc, lui, il prêchait un petit peu pour sa paroisse, forcément. Mais il dit, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Il va falloir s'asseoir autour d'une table, en parler aussi, parce que les pilotes ne veulent pas gérer ça comme ça. Et même Hamilton avait dit, il faut même se préparer. Pour préparer une attaque, on s'y prend plusieurs tours à l'avance pour faire vraiment ce qu'on veut, c'est-à-dire apporter le pneu dans une température optimale pour être sûr d'avoir un grip, un freinage correct pour faire des opérations de dépassement.
Alors, ce qu'on a vu aussi pendant ce week-end à Bakou et après, c'est que les échanges d'amabilité entre Lewis Hamilton et Max Verstappen qui avaient déjà débuté gentiment, là, ça y est, on a le sentiment qu'on rentre dans le dur, que Lewis Hamilton a compris que désormais c'était un duel face aux Néerlandais. Et ça y est, c'est la guerre mentale qui débute entre l'anglais et le pilote Red Bull.
La guerre des mots s'intensifie. Hamilton avait dit sur le ton de la boutade qu'il faudrait peut-être mettre son boss Toto Wolff et puis le boss de Red Bull. Sur un ring et leur donner des gants de boxe pour qu'ils s'expliquent, ça serait peut-être plus rapide. Il y a eu la guerre des petites phrases, effectivement. Hamilton a dit que Verstappen avait la meilleure voiture et Verstappen lui a rétorqué c'est... Moi, à sa place, je dirais ça, mais Verstappen a dit moi, je pense que dans une Mercedes, je serais 2 dixièmes plus rapide qu'Hamilton. Alors, ça, c'est quand même une attaque frontale assez, assez osée, je dirais. On voudrait vraiment voir ce que ça donnerait. Mais en tous les cas, oui, il y a une surenchère, c'est évident.
Alors, ça veut dire que finalement, maintenant, Max Verstappen, qu'on avait senti sur les premiers Grands Prix, rappelle-toi, on l'avait même évoqué dans Les Fous du Volant, plutôt aimable et vouloir éviter un petit peu les premières escarmouches, là, ça y est, on y va en frontal. Moi, j'irai plus vite que Hamilton dans la Mercedes. On ne peut pas faire plus agressif pour un pilote vis-à-vis d'un autre.
Oui, mais je pense aussi qu'il parlait peut-être sur le coup de la déception parce qu'il pouvait repartir de Bakou avec 15 points d'avance sur Hamilton quand même. Il s'est vu aussi repartir avec 21 points de retard quand il a vu sur son téléphone portable le restart en fait à 2 tours de la fin. Et bon, l'un dans l'autre, le statu quo, je pense, satisfait tout le monde, mais il fallait qu'il passe un petit peu sa frustration sur quelque chose. Et dans ces cas-là, on attaque son meilleur ennemi, tout simplement.
Exactement. Alors, je ne sais pas si le statu quo satisfait tout le monde ou personne. Ça serait presque une question de philosophie. Mais en arrivant au Grand Prix de France, il n'y aura toujours donc que 4 points d'écart entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, ce qui fera un Grand Prix de France d'autant plus beau. Alors justement, on disait hein, du côté de chez Red Bull, on ne sait pas si on doit rire ou pleurer de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. En tout cas, chez Mercedes, Toto Wolff l'a dit clairement, c'est la pire période de l'histoire de cette équipe. On a retrouvé un chiffre, c'est l'équivalent du chiffre qui fâche, hein, Stéphane. Mercedes a marqué 7 points à l'issue des deux derniers Grands Prix, donc Grand Prix de Monaco et Grand Prix d'Azerbaïdjan. Il faut remonter jusqu'à l'année 2012 hein, pour retrouver un bilan pire que cela. Donc c'était la première saison de Mercedes en Formule 1. Il a fallu aller rechercher loin dans les archives, Stéphane.
Ben, c'est toi qui me l'as signalé, Gilles. Moi, je n'étais pas là-dessus, mais effectivement, quand on voit ça comme ça, c'est saisissant. Je crois que Mercedes avait fait 5 résultats nuls
Oui.
sur les 6 derniers Grands Prix de 2012, donc tu as dit,
C'est ça.
avec 6 points collectés au Brésil. Donc la dernière séquence catastrophique de Mercedes date de ces 2 derniers Grands Prix de 2012,
Et c'était
0
donc à
point
l'époque
à
de...
Austin et 6 à Sao Paulo.
On est remonté jusqu'à l'époque donc de Michael Schumacher et de Nico Rosberg. Enfin, c'est les calendes grecques presque pour Mercedes. C'est la première fois depuis le Grand Prix d'Autriche 2018 qu'on n'avait aucune des flèches d'argent désormais noires dans les points. Ça aussi, c'est quand même à signaler. Et puis donc, les mots de Toto Wolff après ce Grand Prix infernal à Bakou, les mots qu'il a employés hein, dans ses interviews, de la colère, de la déception, inacceptable. C'est des mots forts, quand même, employés par le patron de cette équipe.
Oui, parce qu'il a dit tout simplement sur les 2 derniers Grands Prix, on n'a pas donné le matériel à la hauteur du talent d'Hamilton et de Bottas, en tous les cas, pour leur permettre d'obtenir des résultats, aussi bien en qualif qu'en course. Il parlait des pit stops. Hamilton a fait un arrêt apocalyptique de 4 secondes 6. Alors, il a attendu Gasly dans la voie des stands, mais n'empêche, Hamilton. Il a subi 4 overcuts en 2 Grands Prix,
C'est ça.
Vettel et Gasly à Monaco et les 2 Red Bull à Bakou. Ça commence à faire beaucoup. Et on
Stéphane.
l'a répété ici, Gilles, que les pit stops sont pas la spécialité de Mercedes, on l'a vu.
C'est exactement, j'allais le dire, c'est ce que tu nous as dit après le Grand Prix de Monaco. Il faut rendre à Stéphane Vrignot ce qui appartient à Stéphane Vrignot. Tu avais une semaine d'avance sur le patron
Vous
de
êtes bien bon.
Mercedes.
Oui, tout
Alors.
à fait. Alors, en temps utile. Voilà, faut quand même dire, Toto Wolff dit une chose, même quand on gagne, vous n'imaginez pas la somme de problèmes qu'on a dû résoudre pour obtenir la victoire. C'est vrai, et là, en fait, il y a tout qui ressort, tout ce qui est caché d'habitude et tout ce qu'ils ne savent pas gérer maintenant est ressorti là, y compris une bévue de Lewis Hamilton.
Exactement, on va justement, c'était le point suivant. Lewis Hamilton, qui avait quand même fait le travail un samedi en qualif, il arrive à finalement se placer devant Max Verstappen sur la grille de départ, aidé, il faut bien l'avouer, par Valtteri Bottas. Il fait un bon départ, il prend l'avantage sur Charles Leclerc et il fait le premier relais en tête. Je dirais que jusque-là, on a du Lewis Hamilton. Masterclass, quoi, qui vraiment optimise absolument tout ce qu'il peut. Et puis, il y a ce coup stratégique, cet overcut des deux Red Bull. Il se retrouve en troisième position, un petit peu par chance, avec donc la crevaison et l'accident de Max Verstappen. Il se retrouve en position d'aller chercher, on va dire, à minima, une place sur le podium pendant que Verstappen abandonne. Donc, une très très bonne opération au niveau du classement. Et là, il fait quand même une boulette assez inhabituelle pour Lewis Hamilton sur le réglage de la balance des freins sur la voiture qui l'envoie à la faute au premier virage sur le deuxième départ.
Oui, alors je vais revenir d'abord sur ce qui a été la construction de ce week-end où ils ont très très bien joué le coup d'Aspi. Le samedi matin, enfin, lors des essais libres 3, il fait le troisième temps alors qu'il était nulle part le vendredi. Et il y a l'ingénieur de Bottas qui appelle Bottas et qui dit, Lewis vient de faire le troisième temps avec un bon coup d'aspi, je crois que c'était sur Perez, et il lui dit, ça vaut quand même 6 dixièmes. C'est incroyable la puissance de l'aspiration sur cette ligne droite de Bakou. Et j'ai regardé jusqu'à quelle distance finalement on peut faire l'aspiration, mais c'est assez incroyable, c'est 200 mètres. On suit une voiture 200 mètres derrière, celle qui ouvre la route, en fait, crée une sorte de couloir d'air qui est nettoyé, le clean air, ce qu'ils appellent ça, et qui peut profiter au pilote qui suit. Et si tu as bien regardé, Gilles, pendant toute la course, Hamilton qui se bat pour essayer de revenir dans la zone de DRS de Perez et qui n'y parvient pas, il se décale scrupuleusement, il suit mais quasiment mètre par mètre la trajectoire de Perez, et c'est comme ça qu'il reste dans le match. C'est juste incroyable. Et qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Eh bien, en fait, il joue au meilleur tour en course avec
Verstappen
parce qu'il pousse Perez, qui lui-même en fait pousse un petit peu Verstappen. Alors il y a de moins en moins d'essence dans la voiture, donc les chronos s'améliorent comme ça, mais j'ai bien regardé sur la dizaine de tours avant l'accident de Verstappen. Eh bien, Hamilton, il fait trois fois le meilleur tour, Verstappen lui répond quatre fois, et bah, c'est peut-être aussi un petit peu ce qui a créé la faiblesse pneumatique chez Verstappen, ou en tous les cas ça y contribuait. Ouais. Mais c'est incroyable ce qu'a fait Hamilton là-dessus, alors qu'il était à la rue. Il disait, je peux pas les suivre. Et d'ailleurs, Hamilton, il a fait du gros bluff après son overcut. Il essayait de les suivre, il a dit, mais en fait ces gars-là, je peux pas les suivre. Et 3-4 tours après, il a essayé de passer Perez. Donc ça, c'est l'Hamilton aussi, c'est un peu bluffeur. Quand il est à la radio qui dit je ne veux pas y arriver, c'est qu'il prépare un coup.
Voilà, exactement.
Et puis effectivement, voilà, c'est ça. Il y a eu après cette opportunité qu'il a malheureusement manqué d'une façon absolument incroyable. Je pense que les boutons auront des dispositions différentes au Grand Prix de France sur la Mercedes numéro 44.
Alors, il faut rapidement expliquer pour ceux qui ne sont pas très au fait de la technique, mais sur une Formule 1 et sur beaucoup de voitures de compétition, on peut régler, ce qu'on ne peut pas faire du tout sur votre voiture, hein, essayez pas, c'est pas la peine, on peut régler en fait la balance de frein, donc entre le train avant et le train arrière, pour avoir un freinage optimal. Et pendant les tours de chauffe et les interventions de la voiture de sécurité, chez Mercedes, on a un système pour pouvoir garder les freins en température, sauf qu'apparemment il a mal géré au moment de se remettre sur la grille de départ et qu'il a commis cette faute et qu'il est allé tout droit. Il se retrouve donc à terminer 15e et évidemment il loupe une occasion en or. Est-ce qu'on dit un mot de Valtteri Bottas en préparant cette émission? Moi j'ai écrit à Valtteri Bottas rouler dans une Williams ce week-end. Il termine 12e derrière les deux Alfa Romeo. Quand Toto Wolff dit que c'est sans doute le pire week-end, la pire période depuis le retour de Mercedes en Formule 1, c'est peut-être le pire week-end de Valtteri Bottas dans son histoire en Formule 1, à lui aussi.
Dans la suite de Monaco, oui, c'est certain. Bottas a expliqué qu'il était prêt lui aussi à signer un contrat chez Mercedes, puisque Mercedes voudrait bien annoncer Hamilton et son deuxième pilote pour l'an prochain d'ici cet été, donc avant le break estival, donc fin début août. Là, je ne suis plus sûr que Bottas soit dans les petits papiers de Mercedes. Là, il n'y arrive pas, clairement. Il est dans le dur. La Mercedes est très, très difficile à exploiter. Et ça n'a rien à voir en fait avec la bête de course qui est facile d'exploiter à 100% et qui lui permettait de titiller Hamilton. Dans les réglages, il est vraiment perdu. Tant à Monaco, à Bakou, tant le vendredi que le samedi. Il avait été bon lors du week-end à Monaco, mais on l'a vu par exemple nulle part. Voilà, c'est ça, c'était à Imola, c'est ce que je voulais dire. Et il a trop de week-end sans quand même pour dessiner le contour d'un pilote numéro 2 idéal, surtout que là, sa contribution, on voit qu'elle manque au championnat constructeur.
Et puis, sa contribution, elle est comparée forcément à celle du numéro 2 chez Red Bull. Et forcément, là, il est en train de boire la tasse par rapport à Sergio Perez. Moi, pour élargir un petit peu le spectre, Stéphane, de ce sujet, je pense que c'est une phase difficile pour l'ensemble de l'entité Mercedes. Et je me demande si le débauchage de plusieurs ingénieurs de la cellule moteur de chez Mercedes pour aller chez Red Bull, n'a pas déstabilisé beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser toute cette équipe, parce que il faut continuer de travailler, et d'un seul coup, peut-être que on se demande à qui est-ce qu'on peut parler. On est en train de développer ça, mais alors attends, est-ce que lui a été approché par Red Bull? Est-ce que éventuellement cet ingénieur peut partir chez Red Bull? Lui, on peut lui faire confiance? Lui, on ne sait pas. Ça peut désorganiser totalement une équipe, hein, qui est vraiment une machine d'une précision exceptionnelle, et c'était le cas chez Mercedes. Et là, ces petits doutes, c'est vraiment le grain de sable qui est en train de rouiller une machine à gagner, de gripper une machine à gagner exceptionnelle comme l'était Mercedes. Je me demande si, effectivement, la chasse à l'ingénieur qu'a lancé Christian Horner pour constituer la cellule moteur chez Red Bull n'a pas finalement semé une zizanie totale chez Mercedes.
C'est la guerre des petites phrases dont on parlait et à laquelle participe Helmut Marko dès qu'il peut. Avant ce Grand Prix, il avait dit qu'il n'y avait pas une quinzaine de personnes qui pourraient venir dans la cellule moteur de Red Bull, comme l'avait dit évalué Toto Wolff, mais une cinquantaine. Et il a même cité le nom d'Andy Cowell, l'ancien directeur technique moteur de Mercedes, comme étant l'une des possibles recrues. Alors, il est quand même habitué un petit peu à faire du bluff aussi.
Bien sûr.
Ça serait un gros coup de tonnerre. Andy Cowell a dit sa loyauté envers Mercedes et
mais ça sème le doute.
Que son départ, ça serait pour aller ailleurs en dehors de la Formule 1. Mais effectivement, ça instille le doute, ça, c'est clair. Et ça, c'est une pollution que Mercedes doit gérer et ce n'est pas facile.
Alors, tout cela, évidemment, on le met en perspective. On vient de passer deux grands prix très particuliers, Monaco, Bakou. On sait que c'est des circuits qui ne ressemblent absolument à aucun autre, qu'on pouvait éventuellement comparer à Singapour, mais Singapour a donc sauté également du calendrier.
Oui.
Donc, il faudra voir, hein, Stéphane, ça sera le dernier mot sur ce sujet. Il faudra voir une fois qu'on reviendra sur un circuit un peu plus conventionnel, et ça sera au Castellet pour le prochain Grand Prix, le Grand Prix de France. Si ça se trouve, Lewis Hamilton va retrouver un rendement, la Mercedes va lui permettre de nouveau de jouer devant. Mais quand même, on a vu là sur deux Grands Prix, pour remonter à 2012, pour retrouver des chiffres comme ça, ça montre bien qu'on est en difficulté à voir, mais clairement, ça tangue chez Mercedes.
Verstappen l'a dit très clairement, là on vient de faire deux grands prix particuliers. Normalement, on revient sur des circuits qui sont favorables à Mercedes. Donc à voir suite au prochain épisode.
Exactement. Alors, on va maintenant évoquer, et là c'est un sujet qui nous fait plaisir, Pierre Gasly, le podium à Bakou. Qui vaut cher. Bon, je ne sais pas si le jeu de mots est à la hauteur de l'exploit réalisé par Pierre Gasly, qui termine donc troisième de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan, derrière Sergio Pérez et le revenant Sébastien Vettel. Un week-end très solide pour le Français de l'équipe Alpha Tauri, qui avait notamment réalisé le meilleur temps, hein, je crois, de la troisième séance d'essais libres, et qui était quatrième sur la grille, qui s'est montré parfaitement patient en course, et puis décisif dans son explication ultime avec Charles Leclerc pour aller chercher le podium à l'issue de cette course sprint de deux tours. C'est le troisième podium de la carrière de Pierre Gasly, moins d'un an après sa victoire évidemment à Monza. Alors on avait dit, on avait déjà évoqué le cas de Pierre Gasly dans les fous du volant depuis le début de la saison, et on avait dit, ah, il est un petit peu en dessous les radars, là, il faut montrer qu'il est là, qu'il est capable de saisir la moindre opportunité. Dis donc Stéphane, est-ce que c'est pas exactement ce qu'a fait Pierre Gasly à Bakou?
Oui, il fait un résultat extraordinaire. Je pense que c'est son meilleur week-end, hormis évidemment Monza 2020 qui est au-dessus de tout. Mais là, il commence à se régaler vraiment. Il était bien à Monaco, il était bien à Bakou. Et puis le vendredi, il a dit, là, je me sens bien dans la voiture, j'en fais ce que je veux. Grosso modo, pour résumer vraiment son terme, c'est ça. C'est-à-dire que je l'ai réglé, mais pile comme je le veux. Cette voiture, je la sens très bien, j'ai de très bonnes sensations. Et à partir de là, il a attaqué comme un fou, vraiment. C'est une quatrième place en qualif à 2 millièmes de Verstappen, qui l'a félicité aussi. C'est juste génial. Il a le sentiment vraiment d'extraire tout le potentiel de la voiture. Il joue dans la même classe que les Ferrari, les McLaren quand même. Il faut se rendre compte, il faut réaliser ce que c'est. Et pour moi... Pierre Gasly, c'est le pilote qui a peut-être le plus changé ces dernières années. Il est le plus gros bagarreur du peloton maintenant. Mais souviens-toi, Gilles, ce n'était pas le cas. C'est ce qu'on lui reprochait un petit peu chez Toro Rosso, d'être un petit peu timoré dans ses attaques. Vraiment, très tendre, tout à fait. Et d'ailleurs, c'était l'un des épisodes qu'on lui avait reproché, s'être fait dépasser par Alexander Albon, Hongrie, en 2019. Il était dans une Red Bull, Albon était dans une Toro Rosso. Et au week-end suivant, à Spa, ils avaient changé les voitures. Et souviens-toi qu'on lui reprochait ça, il s'est reconstruit. L'an dernier, il y avait eu une manœuvre géniale sur Checo Pérez, à Spa, où il avait vraiment été intransigeant dans le rayon de rouge. Manœuvre absolument spectaculaire et vraiment sensationnelle. Et on s'est dit quand même, là, il est en train de changer de catégorie. Et c'est vrai qu'on n'a pas affaire au même Pierre Gasly. Il est en pleine bourre, il faut dire les choses comme elles sont. Il a trouvé la clé et ça fait vraiment contraste avec ce que fait Tsunoda, qui multiplie quand même encore les erreurs, qui s'énerve beaucoup à la radio. Il est calme, il a un plan. Sur les deux derniers tours, il s'est dit, là, il faut que je passe Leclerc immédiatement. Et cette troisième place devant Leclerc est logique. Il a passé tout son week-end, toute la course devant Leclerc. Il était meilleur. C'est une juste récompense de sa progression.
Alors, à l'époque où je suivais les Grands Prix moto, j'avais un camarade qui, lui, faisait des statistiques sur les pilotes qui terminaient systématiquement en tête de leur groupe. Donc, pas forcément la victoire, mais quand il y avait plusieurs pilotes, et c'est particulièrement le cas en moto, tu te rends compte qu'il y a des pilotes qui sont... Dans les explications pour la cinquième place, t'en as qui arrivaient mieux que d'autres à tirer leur épingle du jeu de ces circonstances-là. Et je trouve que là, dimanche, Pierre Gasly a vraiment montré qu'à la bagarre, il était capable vraiment d'aller prendre l'ascendant, un petit peu comme il avait réussi à résister au retour de Carlos Sainz pour aller chercher sa victoire à Monza. Et tu rappelais effectivement cette passe d'armes face à Sergio Pérez l'année dernière à Spa. C'est un pilote qui en one-to-one, comme on dit par exemple en basket, finit par prendre l'avantage sur son rival direct. Alors ce qui est amusant, c'est que après le Grand Prix, dans la soirée de dimanche, il y a eu quand même un petit tweet de l'équipe Mercedes qui venait de vivre donc un de ses pires week-ends de son histoire, un petit tweet félicitant Pierre Gasly de son podium. Évidemment, Pierre Gasly s'est empressé de liker ce tweet. Et forcément, tout le monde se dit, mais dis donc, aux côtés de Lewis Hamilton, est-ce qu'un Pierre Gasly n'aurait pas sa place? Puisqu'on sait qu'apparemment, Lewis Hamilton ne veut pas entendre parler de George Russell. Est-ce que c'est une piste? Est-ce qu'on peut imaginer un Pierre Gasly chez Mercedes l'année prochaine, Stéphane?
En t'écoutant, Gilles, je me souviens de ce qu'avait dit Toto Wolff après Imola. Il avait dit « Russell n'est pas encore prêt à aller dans une grande écurie ». Il avait fait une faute grossière, on s'en souvient, il avait attaqué précipitamment Bottas, il l'avait envoyé dans le décor. Et ce qui signifie, avec les réticences de Lewis Hamilton, avec la négociation serrée qu'il y a en ce moment pour obtenir une prolongation d'Hamilton, que ça serait peut-être lui donner un gage supplémentaire de recruter quelqu'un d'autre, parce qu'on ne sent plus vraiment Bottas dans une dynamique, et il faudra encore qu'il se refasse un moral. Hein. Ça, c'est Toto Wolff, c'est lui qui le booste régulièrement, même à la radio en course. Mais là, on a l'impression qu'il est à court d'arguments, Toto Wolff, et que Gasly, franchement, ferait un bon bagarreur, c'est vrai, si Russell n'était pas choisi, s'il le laissait encore mûrir chez Williams, sachant que Ocon est en discussion avec Alpine prioritairement pour re-signer. Donc, ça serait peut-être une ouverture encore inimaginable il y a quelques semaines pour Pierre Gasly dans une Mercedes. J'ai envie de dire, dans un langage un petit peu familier, ça aurait de la gueule.
Ah oui, là, c'est clair. Et puis alors, ça serait double bénéfice hein, pour Toto Wolff. Il faut faut bien comprendre, prendre un petit peu de distance. Évidemment que nous, ça nous fait rêver. Imaginez Pierre Gasly dans une Mercedes, on serait aux anges, évidemment. Il faut prendre un tout petit peu de recul par rapport à la situation et voir qu'effectivement, en ce moment, ça négocie et que peut-être que pour mettre la pression sur George Russell, on n'en sait rien, qui peut éventuellement avoir quelques ambitions un peu trop hautes en termes de... En termes de finances, il y en a d'autres hein, derrière. Il y a des Nick De Vries qui sont dans le giron de Mercedes. Il y a beaucoup de pilotes qui peuvent prétendre à ce volant. Bah, finalement, en mettant le nom de Pierre Gasly dans la mêlée, ça ramène un petit peu tout le monde, tous les autres prétendants aussi à la raison. Je ne dis pas que Pierre Gasly n'a pas ses chances. Je dis simplement qu'il faut regarder un petit peu la situation dans son ensemble. Et puis alors, dernière chose, Stéphane, imagine la jouissance de Toto Wolff s'il parvenait à placer Pierre Gasly viré par Christian Horner et Helmut Marko de chez Red Bull comme un malpropre et rétrogradé chez AlphaTauri, s'il arrivait à le mettre dans le baquet d'une de ses Mercedes et que d'un seul coup Pierre Gasly parvenait à faire la nique au Red Bull en 2022. Là, je pense que Toto Wolff, si le scénario se déroule comme ça, il touche plus le sol.
Je ne sais pas si on peut se projeter autant que ça et si Toto Wolff est vraiment dans la petite vengeance, on va dire. Mais on l'a dit avant ce Grand Prix, Pierre Gasly a participé au briefing Red Bull. C'est un pilote Red Bull d'abord, il a un contrat Red Bull. Et ça serait effectivement prendre un pilote à Christian Horner et Helmut Marko. Ça sème un petit peu le trouble parce que finalement, si Toto Wolff laisse entendre qu'il s'intéresse à Gasly, Gasly ne va peut-être pas être d'une résistance très tenace quand il verra débouler Lewis Hamilton dans ses rétrons. En tous les cas, il fera attention, il sera pro, il défendra ses chances, on est d'accord là-dessus. Mais effectivement, ça crée un petit peu la confusion chez Red Bull. Et on peut jouer aussi là-dessus, effectivement, sur actionner ce levier-là dans cette guerre qui n'en finit plus.
Tu me piques mes ingénieurs, je te pique un de tes pilotes.
Oui, mais alors par contre, je pense qu'il aura du mal à remettre Bottas dans une AlphaTauri ou le proposer à Christian Horner.
Non, ça, je pense pas. Mais peut-être en Coupe Clio.
Oui.
Ça, c'est méchant pour Valtteri Bottas qui est en difficulté. Bon, voilà, mine de rien, d'un seul coup, avec un seul podium, pour conclure ce sujet sur Pierre Gasly, avec un podium, et avant d'aller au Grand Prix de France, Pierre Gasly, d'un seul coup, ressort dans l'échiquier de 2022.
Ah oui, alors là, ça c'est complètement improbable parce que alors la plus grosse pièce c'est Lewis Hamilton. On ne sait pas du tout s'il va prendre sa retraite ou pas. Ça serait étonnant s'il s'arrêtait à la fin de saison que Verstappen bondisse dans la Mercedes. Maintenant c'est moins probable. Il a tout ce qu'il faut chez Red Bull pour réussir. Les moteurs sont gelés, donc il n'y aura plus cette question de la puissance l'an prochain. Il faudra quand même trouver un pilote numéro 1 chez Mercedes, ça serait compliqué. Mais la place de Bottas maintenant, effectivement, sur ce petit tweet de Mercedes, je trouve que ça en dit long et ça va galvaniser encore plus Pierre Gasly. Il sait qu'il est regardé, qu'il est scruté, que Alpine n'a pas de place pour lui l'an prochain parce que Alonso est en train de hausser son niveau, mais qu'il avait reporté ses espoirs sur 2023. Mais il faut peut-être qu'il pense effectivement à 2022. On pensait qu'il aurait peut-être à continuer chez AlphaTauri l'an prochain, faute de mieux. Ben là, le jeu est beaucoup plus ouvert pour lui.
Et c'est tout ce qu'on lui souhaite à quelques jours maintenant du Grand Prix de France. Là, s'il veut enfoncer le clou, nous, on est preneurs. Voilà Stéphane, ce qu'on pouvait dire après ce Grand Prix d'Azerbaïdjan, sixième épreuve du championnat du monde de Formule 1 2021. Je vous rappelle que on vous fait gagner dans les fous du volant un livre sur l'histoire de la Formule 1 en 50 portraits, écrit par Umberto Zappelloni. Voilà, pour tenter de gagner ce livre, vous allez sur votre compte Twitter et vous partagez le post qui fait la promo de notre podcast Les Fous du Volant. Et puis, vous verrez si vous êtes l'heureux élu. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous noter, à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Et comme ça, lors du prochain numéro des Fous du Volant, eh bien, vous recevrez cette édition directement sur votre smartphone. On a tout dit, Stéphane ?
Je crois, j'espère, Gilles.
Il nous reste la célèbre formule. On se dit à la semaine prochaine et d'ici là, on coupe le contact.